Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Culture Monde, votre émission internationale que vous retrouvez du lundi au vendredi sur France Culture. On est ensemble jusqu'à midi, une émission préparée ce matin par Tiffaine de Rocchini, mais aussi Samuel Bernard, Clémence Salazar, Anne-Sophie Pierry, réalisée par Alexandre Fougeron et mise en onde ce matin par Pierrick Monsigny. Suite de notre série consacrée à l'exercice du pouvoir. Après avoir évoqué le pouvoir de nos chefs d'État, nous allons nous pencher ce matin sur le pouvoir économique international. Nous allons parler de régulation de la finance, voire de dérégulation multinationale, banque, État, qui tient les rênes de l'économie mondiale. C'est notre sujet ce matin dans Culture Monde.
On va couper beaucoup dans la loi Dodd-Frank parce que franchement, j'ai tellement d'amis avec de belles entreprises qui ne peuvent pas emprunter d'argent parce que les banques ne les laissent pas emprunter.
Le plus grand obstacle à la création d'emplois dans notre pays, c'est la régulation financière. Alors maintenant que nous sommes là, la première chose à laquelle on va s'attaquer, c'est la régulation. Pas seulement sur le marché financier, mais sur tous les marchés. Alors dès aujourd'hui, nous ferons adopter une loi pour faire reculer drastiquement la régulation sur le marché des services financiers.
And we will make America great again.
Donald Trump, bien sûr, mais aussi Gary Cohn, conseiller du président sur les questions économiques et ancien salarié de la banque Goldman Sachs. C'était l'un de ses arguments de campagne. Donald Trump avait promis d'assouplir la loi de régulation bancaire mise en place après la crise de 2008 et adoptée par le Sénat américain en 2010. Le candidat républicain n'avait cessé de dénoncer les conséquences de ces nouvelles règles qui pénaliseraient l'économie américaine en restreignant la capacité des banques à accorder des crédits à la fois aux entreprises et aux ménages. Le président, désormais élu, a donc signé deux décrets en février dernier, qui ouvre la voie à une réforme de la loi. Si le geste est pour le moment symbolique, il faudra le vote du Congrès pour toute modification. Cette décision interpelle à l'heure où de nombreux économistes estiment que la régulation de la finance mondiale est loin d'être suffisante et que la perspective d'une nouvelle crise financière ne doit pas être exclue. Cependant, Donald Trump, qui s'est entouré d'anciens de Goldman Sachs, je le disais, a ensuite envoyé un message inverse en annonçant vouloir scinder les grandes banques et séparer les activités de dépôt et d'affaires. Une mesure sans cesse repoussée, alors même qu'elle semblait constituer une priorité après la fameuse crise financière de 2007-2008. Alors les États ont-ils encore un pouvoir face aux marchés financiers qui semblent édicter les règles de la mondialisation depuis le milieu des années 90? L'économie gouverne le monde, mais qui gouverne l'économie mondiale? Peut-on encore réguler l'activité des grandes banques systémiques qui tiennent les États en otage par le biais des dettes publiques? Voilà les questions sur lesquelles nous allons nous pencher ce matin. Et pour ce faire, nous avons deux invités. D'abord, François Morin, qui est avec nous en duplex depuis Toulouse. Je remercie d'ailleurs les techniciens qui sont à ses côtés et qui assurent le duplex. Bonjour François Morin.
Bonjour.
Merci infiniment d'être avec nous. Vous êtes économiste, professeur émérite de sciences économiques à l'Université Toulouse 1 et puis auteur de deux ouvrages. Le dernier en date, L'économie politique du 21e siècle, de la valeur capitale à la valeur travail, qui était paru chez Lux. Et puis toujours chez Lux, en 2015, L'hydre mondial, l'oligopole bancaire. On reviendra évidemment sur cette idée d'oligopole bancaire. Vous nous expliquerez pourquoi on peut parler d'oligopole. Et puis également avec nous ici en studio, Christian Chavagneux. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous également. Vous êtes économiste, éditorialiste au mensuel Alternative Économique, auteur de plusieurs ouvrages. Une brève histoire des crises financières, c'était La Découverte en 2013, mais aussi plus récemment, Les Paradis Fiscaux, une quatrième édition qui vient de paraître en janvier à La Découverte. Merci d'être avec nous. Alors, on va bien sûr évoquer ce cas américain, ce mouvement de dérégulation qui nous vient des États-Unis, mais d'abord, peut-être un mot d'actualité. On va commencer avec vous, Christian Chavagneux, échaudé par le Brexit, par l'élection de Donald Trump aux États-Unis, les investisseurs redoutaient une nouvelle surprise lors de l'élection présidentielle française, le marché a visiblement été soulagé par l'élection d'Emmanuel Macron pour le second tour, puisque les bourses ont enregistré à ce moment-là une hausse. Les principales bourses européennes ont augmenté, même si depuis, c'est vrai qu'elles marquent une pause, voire même un petit recul. En tout cas, il y a eu un effet assez clair sur les marchés qui ont considéré que les risques d'un éclatement de la zone euro finalement étaient écartés avec son arrivée à la tête de l'État. Comment comprendre ça? Est-ce que ça veut dire que, comme certains l'ont dénoncé régulièrement pendant la campagne, son programme est favorable à la finance? C'est l'ami de la finance, pour reprendre évidemment la formule bascule inversée de François Hollande, qui était lui l'ennemi de la finance, en tout cas affiché, Christian Chavagneux ?
Écoutez, on ne peut pas simplement dire que parce que M. Macron est passé par une grande banque d'affaires, qu'il est forcément l'ami de la finance. Ce qui nous fait un petit peu douter, c'est que la seule fois où il s'est exprimé sur le sujet pendant la campagne présidentielle, c'était pour dire, écoutez, il y a des règles internationales, j'ai l'impression qu'elles sont un peu trop contraignantes pour les banques françaises. Si vraiment c'est le cas, il ne faudra pas s'interdire les politiques de reprendre la main sur la définition de la régulation bancaire européenne et donc laisser ces régulateurs qui sont remplis de spécialistes de banques et de techniciens, les laisser de côté pour qu'on reprenne la main politiquement. Et reprendre la main politiquement, ça veut toujours dire abaisser les contraintes. Donc voilà, il nous a un petit peu fait peur, mais c'est la seule fois où il s'est exprimé sur le sujet.
François Morin, je voudrais votre point de vue là-dessus, parce que c'est vrai qu'on a cessé de présenter Emmanuel Macron comme un banquier d'affaires, sous-entendu, vendu aux intérêts de la finance mondiale, sauf qu'en réalité, il y a une grande diversité au sein du monde de la finance, je mets des guillemets, concernant la manière dont il convient de réguler les choses. Que sait-on précisément des positions d'Emmanuel Macron sur la question de la régulation de la finance ?
Eh bien écoutez, je crois que Christian Chavagneux a bien rappelé l'expression orale de Emmanuel Macron sur le sujet. Dans son programme, il n'y a absolument rien sur les questions de stabilité ou instabilité financière. Il y a simplement, peut-être, on peut le noter, la création d'un fonds pour l'industrie et l'innovation de 10 milliards d'euros. Et c'est assez étonnant parce que on a surnommé Emmanuel Macron de Mozart de la finance lorsqu'il était chez Rothschild et compagnie. Et il y est resté pendant 4 ans, effectivement. C'était un banquier d'affaires, il s'est occupé énormément, comme c'est le cas dans ce type d'activité, de la croissance externe des entreprises françaises ou étrangères. Et donc, évidemment, il connaît très bien ce milieu, mais par un biais un peu particulier, qui est le biais des fusions-acquisitions, des apports partiels d'actifs, des restructurations d'entreprises, où on a besoin, en effet, de l'outil financier pour réaliser ces opérations. Il n'est pas impliqué directement, il n'a pas été impliqué dans les grandes banques systémiques dont il faudra parler si on veut parler de la finance internationale, qui, elles, ont des activités beaucoup plus diversifiées, notamment sur les marchés financiers. Donc voilà peut-être quelques mots. Je crois que c'est un peu étonnant du reste de sa part qu'il n'ait pas encore expliqué sa façon de comprendre à la fois la crise financière, les mesures qui ont été prises depuis 2007-2008, et notamment, vous l'avez rappelé, à partir de 2010 avec les accords de Bâle III et ce qui se prépare avec Bâle IV, il n'a absolument pas, pour l'instant, donné son point de vue sur ce type de régulation qui, est évidemment, aujourd'hui, sont en grande discussion.
On va revenir, évidemment, sur ce que vous appelez Bâle III, Bâle IV, qui est en préparation, même si, visiblement, il n'y a pas beaucoup d'avancées en la matière, mais on va essayer de comprendre ce qu'est ce fameux comité qui propose de nouvelles règles en matière de régulation financière. Mais pour finir, peut-être sur la question nationale, Christian Chavagneux, et sur cette élection de Emmanuel Macron. Est-ce qu'il faut s'attendre à ce que notre nouveau président utilise les marchés, utilise l'outil financier dans la gestion de l'État et de ses capacités budgétaires ? Souvenons-nous, Christian Chavagneux, que lorsqu'il était ministre de l'économie, Emmanuel Macron avait procédé à un certain nombre de ventes d'actions importantes. Il avait notamment conclu une vente très importante, 4% du capital du groupe Safran pour un montant d'1 milliard d'euros. Il avait évoqué alors, je le cite, une gestion active des participations de l'État censé permettre de dégager, je cite encore, des ressources pour contribuer à l'effort de désendettement et réinvestir dans des entreprises de secteurs porteurs de développement économique. Est-ce que c'est une gestion de l'État à laquelle il faut s'attendre pour son mandat ? En gros, on ne va pas hésiter à solder des participations dans des entreprises cotées en bourse pour renflouer les caisses, il faut s'y attendre.
Pour l'instant, il n'a pas pris de position allant dans ce sens-là. Vous l'avez rappelé à juste titre quand il était ministre, il l'a fait. Et lorsqu'il a discuté récemment, par exemple, de la transition écologique, il a montré que l'un de ses outils, de ses soucis était de surveiller le comportement des marchés financiers. Lorsque on lui demande « Mais pourquoi est-ce que vous vous engagez pas plus fermement dans la remise en cause du nucléaire comme les Allemands ?» Il dit « Le jour où moi, responsable politique, je dis « C'est un business terminé, EDF ne peut plus emprunter sur les marchés internationaux à des taux raisonnables. » Donc, le souci de faire attention aux réactions des marchés financiers sera bien présent chez le président Macron.
François Morin, venons-en peut-être donc aux États-Unis. Quelques semaines après son arrivée à la Maison-Blanche, Donald Trump, je le disais, a lancé un processus de démantèlement de la réforme sur la réglementation financière lancée par son prédécesseur suite à la crise de 2007-2008. Il a signé notamment deux décrets visant à revenir sur la loi dite Dodd-Frank qui avait été votée par le Congrès en 2010. Essayons de comprendre où on en est aujourd'hui, François Morin. Qu'est-ce qui concrètement a changé, pourrait changer à l'avenir et quel impact, de façon globale, sur le fonctionnement du système financier, François Morin?
Eh bien, écoutez, il faut rappeler peut-être en deux mots ce qu'était cette loi Dodd-Frank qui, normalement, devrait peut-être connaître sa suppression dans les semaines qui viennent. Cette loi prévoyait essentiellement le renforcement des fonds propres pour les banques américaines, prévoyait également des tests de résistance tous les ans. Tout ceci représente évidemment des contraintes par rapport à ce qui pouvait exister précédemment. Et puis, dans un autre décret, toujours en février, vous l'avez rappelé, il y avait également l'idée de remettre en cause les discussions qui sont actuellement menées au sein de ce comité de Bâle, dont j'ai parlé tout à l'heure, Bâle 3 et Bâle 4. Et ce qui est en cause, c'est évidemment de la réglementation actuelle, si vous voulez, a remis en cause des modèles internes pour évaluer les risques. Et évidemment, c'est une contrainte aussi supplémentaire qu'on impose aux banques. Alors voilà le dispositif. Et puis, il y a eu un autre décret auquel vous n'avez pas fait allusion, qui a été pris en avril, qui consisterait à revenir sur la définition des banques systémique ou des assurances systémiques, parce que évidemment, à ces grandes entités, à ces méga banques ou à ces méga assurances, s'appliquent des régulations particulières. D'où, évidemment, la question de savoir ce que sont ces grands groupes. Et donc, il souhaite revenir sur la définition de ce caractère systémique de ces grands acteurs.
On va revenir, puis, bien sûr, sur ce... Voilà. Allez, je vous en prie, poursuivez.
Écoutez, on peut continuer. Et donc, vous avez signalé, à juste titre également, la dernière déclaration de Trump, début mai, donc il y a quelques jours seulement, sur l'idée de remettre en place le Glass-Steagall Act, c'est-à-dire cette loi qui sépare les activités bancaires entre, d'une part, les activités traditionnelles de dépôt et de crédit d'un côté, et puis de l'autre, les activités financières, qui sont considérées comme étant plus spéculatives. Alors là, évidemment, c'est un changement de cap complet. Ouais. Par rapport aux autres décrets, puisque c'est même, je dirais, peut-être plus important que ce comptait faire dans les décrets dont on vient de parler, puisque là, il s'agit vraiment de casser, de scinder les grandes banques en deux, comme l'avait fait Roosevelt en 1933. Et ce Glass-Steagall Act, comme vous savez, a été remis en cause et même supprimé en 1999.
Par Bill Clinton.
Par Bill Clinton, exactement.
Ouais. Le décor est parfaitement posé, François Morin, et je vous en remercie. Il y a d'un côté, Christian Chavagneux, ce mouvement qui consiste à déréguler le système financier américain.
Si vous me permettez, n'allons pas trop loin. Dérégulation du système financier bancaire américain, Donald Trump a passé un décret en février donnant 4 mois à son administration pour regarder de près Dodd-Frank. Et les pistes qu'il nous a données, honnêtement, moi, me font pas très peur. Enfin, il y en a une qui me fait peur, qui est, vous savez, les banques se financent avec des capitaux, les actionnaires leur amènent de l'argent, donc ils ont des capitaux. Est-ce qu'une banque a le droit de jouer avec ses capitaux sur les marchés financiers?
Ça,
c'est la règle dite Volcker. Donc la loi Dodd-Frank dit non, vous n'avez plus le droit. Donald Trump dit, si, je veux laisser les banquiers jouer avec ça parce que ça leur apporte beaucoup d'argent. Ça peut être dangereux. Pour le reste, Donald Trump nous dit les banques régionales, les petites banques régionales avec les nouvelles règles ont du mal à prêter. C'est faux, mais si on aménage un petit peu les règles, ça ira pas très loin. Par ailleurs, il nous dit la loi Dodd-Frank a créé un bureau de protection des consommateurs. Quel est le rôle de ce bureau? Les consommateurs peuvent venir voir ce bureau en disant voilà, moi, on m'a fait un prêt ou on m'a vendu un produit financier dont on m'a dissimulé le risque. On m'a dit je me suis laissé avoir par le discours de mon banquier. J'aimerais bien revoir tout ça. Et on peut aller se plaindre au bureau. Et le bureau, plusieurs fois déjà, a dit bah oui, le consommateur a raison. La banque doit payer, rembourser le consommateur. Et ça, Donald Trump veut le supprimer. Est-ce que tout ça est de nature à mettre en place une nouvelle instabilité financière au niveau américain, au niveau mondial? Je ne le pense pas. Ce sont des mauvaises évolutions pour le public américain, pour les consommateurs américains, pour les gens qui empruntent aux États-Unis, mais je ne pense pas que ça revienne à créer de l'instabilité financière. Quant au Glass-Steagall Act, Steve Mnuchin, qui est le ministre des Finances, le secrétaire au Trésor, a dit qu'éventuellement, ça ne le dérangeait pas de penser à... Je pense qu'on est très, 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 très loin d'un Glass-Steagall Act aux États-Unis pour l'instant.
D'accord. Donc, en fait, pour vous, il ne faut pas trop s'inquiéter de ce mouvement de dérégulation de Donald Trump. Il y a quelques risques, mais en réalité, ils sont assez mineurs, vous nous dites.
Je pense qu'il va aménager la loi Dodd-Frank plutôt que la supprimer.
Et quant au Glass-Steagall Act, qui est donc cette loi de 1933 qui visait à imposer une séparation entre les activités d'État et des banques et les activités de marché, là aussi, en gros, vous nous dites, attention, l'urgence, selon vous, du côté de l'administration Trump, c'est de ne rien faire de ce côté-là. En gros, vous n'y croyez pas trop.
En tout cas, ils vont regarder ça de près, mais oui, à court terme, je n'y crois pas trop. Ce serait une bonne évolution compte tenu de la grande complexité que sont devenues ces banques internationales, où on voit que même les dirigeants de ces grandes banques internationales, si vous leur demandez aujourd'hui au patron d'une grande banque mondiale, est-ce que vous pouvez me donner l'état précis du risque que votre établissement a aujourd'hui, ce matin, à 11h, 11h15, il est incapable de vous répondre. C'est trop compliqué. Donc de ce point de vue, un Glass-Steagall moderne ferait du bien. Pour la stabilité financière, vous savez, on a connu plein de crises bancaires avec des petites banques. Mmh. Je ne suis pas sûr que plein de petites banques soient plus stables que plein de grosses banques.
Bon, donc à vous entendre, on est plutôt dans une forme de statu quo.
À court terme, en tout cas,
c'est autre chose. François Morin, ce qu'on observe dans le monde des banques, c'est un petit peu ce que vous nous disiez tout à l'heure, c'est qu'en réalité, il y a banque et banque. Il y a les banques moyennes et petites, et puis il y a surtout celles qui sont très grosses, trop grosses pour qu'on les laisse tomber. Too big to fail, dit-on aux États-Unis. En réalité, ces banques dites systémiques sont assez peu nombreuses. Il y en a une trentaine dans le monde, 28 en réalité, et 11 sont beaucoup plus puissantes que les autres, c'est ce qu'on comprend dans votre livre L'Hydre mondiale. Et c'est celles-ci qui ont un pouvoir considérable sur les États, parce qu'elles peuvent déstabiliser l'ensemble de l'économie mondiale, bien sûr. On avait bien vu durant la crise qu'en réalité, elles dominent d'une certaine manière les États, en ce que ces derniers ne peuvent pas les laisser tomber. Je vais vous poser une question très générale, et puis on va essayer de détailler les choses, François Morin. Comment en est-on arrivé là? Pourquoi des institutions bancaires se sont retrouvées à imposer des choix à des gouvernements?
Très bonne question. Je crois qu'on peut dater ce mouvement de façon assez précise. Je crois que ça a commencé au milieu des années 90 avec ce qu'on a appelé la globalisation des marchés monétaires et financiers. C'est à ce moment-là, en effet, qu'intervient, je dirais, la troisième grande libéralisation du secteur, qui est la libéralisation des mouvements de capitaux à l'échelle internationale. Cette libéralisation, elle intervient selon les États entre 1990 et 1995. À partir du moment où ces marchés deviennent globaux, c'est-à-dire que les capitaux peuvent se déplacer à l'échelle planétaire à la vitesse de la lumière, eh bien, les acteurs ont dû s'adapter à cette nouvelle dimension et les plus grandes banques ont dû elles-mêmes à ce moment-là, se restructurer et adapter leur taille à cette nouvel espace de transaction. Et on peut dire que pendant une dizaine d'années, grosso modo, de 1995 à 2005, ces banques ont acquis des dimensions proprement gigantesques. On peut dire qu'il s'agissait de méga-banques, si vous voulez. Et leur caractère systémique apparaît à ce moment-là. C'est-à-dire que, du fait de leur taille, la moindre faillite de l'une d'entre elles peut, à ce moment-là, entraîner un cataclysme à l'échelle mondiale. C'est dire le volume de leur activité leur lien avec l'économie réelle.
Alors, il y a la question de la taille, François Morin, pardonnez-moi de vous couper, mais non, c'est peut-être pas la seule chose, et c'est peut-être pas la chose essentielle d'ailleurs. En tout cas, il y a une autre chose qui est très importante, c'est que en plus d'être des méga-banques, comme vous dites, et donc de devenir des banques systémiques au sens où leur effondrement pourrait provoquer une instabilité financière internationale, mais en plus, ces banques savent parfaitement se coordonner entre elles. Ce qui va précisément dans le sens de cette définition d'un oligopole, puisque vous parlez d'oligopole bancaire.
Alors, oui, en effet, vous savez ce que c'est qu'un oligopole ? C'est une structure de marché un peu particulière, où les plus grands acteurs occupent des positions dominantes. Il peut y avoir d'autres acteurs de taille beaucoup plus petite, mais l'idée fondamentale, c'est de dire que la taille en tant que telle est un facteur qui permet d'occuper ces positions dominantes. Et dans un oligopole, les principaux acteurs s'observent mutuellement. Ça ne veut pas dire qu'ils s'entendent automatiquement sur les prix, mais les prix se forment pas tout à fait de la même manière que si on était en concurrence pure et parfaite. Or, justement, précisément, à partir de 2005, qu'est-ce qu'on observe ? Les premières ententes entre ces grandes banques, à la fois sur le marché d'échange, d'une part, et sur plusieurs marchés monétaires, ensuite. Donc, là, c'est la signature, en quelque sorte, de la formation d'un oligopole. Parce que pour s'entendre, il faut être assez peu nombreux. Or, à l'époque, en 2005, il y a 46 000 banques dans le monde, à peu près, et il y a peut-être une vingtaine, une trentaine de banques qu'on va appeler par la suite systémiques. Elles seront exactement 28 en 2012, puisque c'est la première recension qu'on fait de ces grands acteurs par le G20 de Londres. Et aujourd'hui, elles sont une trentaine. Et donc, depuis 2005 jusqu'à 2012-2013, on sait que ces grandes banques se sont entendues entre elles sur plusieurs marchés pour manipuler des prix, les taux de change et les taux d'intérêt, soit sur des marchés à court terme, soit sur des produits financiers dérivés.
Ce qui répond à la définition d'oligopole. Je vais passer la parole à Christian Chavagneux, et puis peut-être poursuivre un tout petit peu sur cette idée d'oligopole. C'est que c'est aussi le fait que les États sont endettés à ces niveaux-là que, au fond, le rapport de force s'est progressivement inversé et qu'il est passé du côté de ces grandes banques. Vous écrivez la puissance de cet oligopole est telle que face à des États surendettés, le rapport de force s'est progressivement inversé. Donc la raison pour laquelle ces grandes banques, ces grosses banques ont autant d'influence sur les politiques économiques et monétaires, c'est aussi parce que les États ont atteint un certain niveau d'endettement. Christian Chavagneux.
Est-ce que vous me permettez juste un petit retour historique, parce que absolument. François Morin a faisons-le. Daté ça de la fin des années 90. Moi, je dirais 1958. Pourquoi ? Parce que c'est le moment où la grande place financière de Londres s'aperçoit que la livre sterling est perdue. C'est le dollar qui devient la monnaie dominante. Est-ce qu'on peut pas être l'endroit, se disent les Britanniques, où on traite de ces fameux dollars qui est en train de devenir la monnaie dominante ? Et ça va marcher. Une alliance entre les grandes banques privées britanniques et la Banque d'Angleterre, donc le régulateur public, ensemble, pour diminuer les règles. Puisque le problème de la finance internationale, c'est lorsqu'elle n'est pas contrôlée publiquement. L'ouverture, le début d'une finance internationale non contrôlée publiquement, c'est Londres 1958. Donc moi, je daterais ça de beaucoup plus loin. Ça monte déjà, on le voit déjà dans les années 70, ça explose dans les années 90. Alors pour répondre à votre question, pourquoi les banques s'imposent aux États ? Moi, dans le livre que vous avez cité tout à l'heure, Une brève histoire des crises financières, j'ai passé en revue 5-6 grandes crises historiques, vraiment des crises très très importantes. Et on s'aperçoit que les banques et les financiers prennent d'autant plus de pouvoir politique que les États les laissent faire. Ça ne veut pas dire que les banques peuvent s'imposer aux États. Les États perdent du pouvoir lorsqu'ils acceptent de déréguler, lorsqu'ils acceptent de ne plus contrôler les banquiers et la finance. Et les États ont toujours la possibilité de les contrôler. Lorsque vous dites, finalement, aujourd'hui, concrètement, le vrai pouvoir des banques, c'est parce que les États sont très endettés et que les banques achètent une partie de ces dettes. Déjà, depuis la crise de 2008, elles en achètent beaucoup moins. Donc les États, de ce point de vue, seraient un peu moins dépendants des banques. Mais, en fait, entre la cigale et la fourmi, quel est le plus puissant ? Est-ce que c'est celui qui vit en s'endettant de manière régulière et qui vit de l'épargne et du travail des autres, ou est-ce que c'est celui qui épargne beaucoup et qui prête ? Moi, je crois que le plus puissant, c'est celui qui peut emprunter ad vitam aeternam, toujours en étant capable de renouveler ses emprunts. Et la France est tout à fait capable de renouveler ses emprunts. Le marché de titres de dette publique le plus important au monde, c'est les États-Unis. Les États-Unis sont des cigales depuis des dizaines d'années.
Non, mais et ça fonctionne. Qu'on vous comprenne bien, ça veut dire que vous remettez en cause cette idée que les banques dominent, maîtrisent les États, ils n'ont pas autant d'influence sur les politiques économiques et monétaires que ce qu'on voudrait le dire.
Les banques ont d'autant plus d'influence que les États les laissent faire en les contrôlant peu. À partir du moment où les États décident de contrôler, alors les banques n'ont pas un pouvoir inné parce qu'elles ont le pouvoir de création monétaire. Ça ne suffit pas pour dire qu'elles ont du pouvoir dans l'économie mondiale. Je crois que si on veut résumer, on peut dire qui définit les règles du jeu de cette finance internationale, en fait. Est-ce que vous dites ce sont les banques? Est-ce que ce sont... Je crois qu'il y a un triangle diplomatique. Il y a des relations entre les États. François Morin a parlé depuis tout à l'heure du fameux comité de Bâle qu'on a créé en 1974 pour essayer de mieux contrôler les risques des banques. Des relations entre les États, en disant entre les acteurs publics, les banques centrales. Des relations entre les banques, lorsque vous dites tout à l'heure, elles se coordonnent. C'est ça que ça veut dire, qu'il y a des relations entre elles. Et honnêtement, ça date pas des années 90. Les cartels bancaires, les cartels internationaux bancaires, ça date des années 60-70, pas seulement des années 90-2000. Et puis, le troisième branche du triangle diplomatique, ce sont les relations entre les États et les acteurs privés. Et on est au cœur, là, de la définition de la gouvernance mondiale.
Alors, je vous laisserai réagir François Morin, mais je vais peut-être poursuivre et enchaîner sur cette question que posait Christian Chavagneux, qui est régule, qui organise les règles bancaires. Et là, effectivement, il faut parler de ce comité de Bâle créé, vous le disiez, en 1974, par les gouverneurs des banques centrales pour élaborer ces règles bancaires mondiales. C'est un forum où sont traités donc de manière régulière, je crois que c'est 3 ou 4 fois par an, c'est tous les sujets relatifs à la supervision bancaire. Donc il y avait ce comité qui est créé en 1974, qui va produire ces règles dites Bâle 1 dans les années 80, et puis Bâle 2 dans les années 90, et puis Bâle 3 à la suite de la crise 2007-2008. Il y a quelques jours, François Morin, et je me tourne vers vous, le comité a publié son programme de travail pour 2017-2018. Et visiblement, il ne prévoit pas de lancer de nouvelles grandes réformes, des réformes vraiment de grande ampleur, mais plutôt de finaliser les travaux existants. Le fameux Bâle 4 dont vous parliez, visiblement, il va falloir encore attendre. Alors, pourquoi cette absence, François Morin, de nouvelles ambitions réglementaristes, selon vous ?
D'abord parce que je pense qu'il faut absorber Bâle 3. Bâle 3 n'est pas encore complètement, achevé. Il y a encore des échéances en 2019, 2021, pour mettre en place ces réglementations. Et on voit déjà que Bâle 3, en tant que tel, est remise en cause, notamment donc par l'administration de Donald Trump. Donc je crois qu'on est encore dans une phase où les régulateurs internationaux, comme le comité de Bâle, hésitent beaucoup sur la suite à donner. La réglementation de Bâle 3 est très complexe parce que c'est une réglementation internationale dans laquelle s'emboîtent des réglementations de type européen ou américaine. Et cet emboîtement se fait assez mal. Il y a des indicateurs, notamment de fonds propres, je ne veux pas rentrer trop dans la technique, mais qui peuvent différer dans l'interprétation qu'il faudrait donner aux grandes stipulations de Bâle 3. Donc je crois qu'on est encore dans une phase où Bâle 3 est loin d'être achevé, et donc on peut comprendre...
Oui, ce que vous voulez dire, c'est que tant qu'on n'applique pas les règles qu'on a éditées jusqu'ici, voilà, il n'est pas utile d'en construire de nouvelles. C'est ça qu'il faut comprendre.
Exactement, exactement. D'autant que, effectivement, avec ce qui se passe aux États-Unis et les perspectives de révision, disons, de la loi Dodd-Frank, l'incitation à promouvoir de nouvelles réglementations n'est peut-être pas très, très, très élevée. Et le lobby bancaire... cette coordination qui existe entre grandes banques, qui n'est pas simplement au niveau des prix et des marchés, mais aussi qui est une coordination institutionnelle, à travers ce qu'on peut appeler le lobby bancaire international, le lobby bancaire, évidemment, il ne reste pas inactif. Il est très organisé à l'échelle internationale et il pèse par ses éléments de langage, évidemment, sur tout ce qui se trame autour de Bâle 3 ou Bâle 4.
Christian Chavagneux, sur ce comité de Bâle, sur le fait qu'effectivement les États-Unis peut-être n'appliquent pas les dispositions qui ont déjà été édictées par Bâle 3, on voit que du côté de l'Europe, précisément, il y a des réponses justement à cette non-application des règles du côté des États-Unis. Regardez la Commission européenne qui cherche à imposer visiblement aux banques de pays tiers de se constituer un matelas de fonds propres. Il s'agira pour ces grandes institutions de leur demander, les institutions qui ont donc des activités significatives, ça veut dire plus de 30 milliards d'euros d'actifs, de posséder suffisamment de capital pour répondre à une éventuelle faillite. On voit très bien qu'en réalité, ça c'est une réponse aux dispositions exigées par les États-Unis à l'égard des banques étrangères, mais aussi au fait que précisément les États-Unis n'appliquent pas les règles du comité de Bâle.
Je suis entièrement en désaccord avec cette
Très bien, alors expliquez-nous.
je vais vous dire pourquoi. Vous posez la question clé. Hein. La question clé pour moi dans Bâle 3, c'est quelles contraintes on demande aux banques en termes de financement par les fonds propres, le matelas qui permet, comme vous l'avez très justement dit, d'absorber les pertes. Aujourd'hui, aux États-Unis, on demande aux banques un matelas supérieur à ce qu'on demande aux banques européennes. Supérieur. Aujourd'hui, l'ensemble de ce matelas, ça doit être à peu près 3%, nous disent les règles de Bâle 3, de l'ensemble de l'activité des banques. Aux États-Unis, on dit que ça doit être au moins 5% pour les plus grosses banques. Donc supérieur à ce qu'on fait en Europe.
Les Américains demandent 5,
pendant que Bâle 3, c'est-à-dire la coordination internationale, demande 3. Donc les Américains sont plus exigeants. Et c'est vraiment la clé. Tout à l'heure, on parlait de Glass-Steagall Act. En fait, comment est-ce qu'on régule les banques? Est-ce qu'on les régule par leurs activités et les risques qu'elles prennent, ou est-ce qu'on les régule par la façon dont elles se financent? Avec Bâle 3, avec ce que vous venez d'évoquer sur les capitaux qui permettent d'éponger les crises en cas de problème, eh bien, on a une régulation par les ressources des banques sur la façon dont elles se financent. Aujourd'hui, les régulateurs américains demandent une contrainte plus forte que les régulateurs européens. Et ce qui coince, c'est que François Morin l'a dit tout à l'heure, il a un petit peu évoqué, il dit la façon dont les banques calculent ce qu'elles doivent mettre en plus de côté pour éponger les pertes en cas de problème, elles le font en utilisant leur modèle interne, des trucs complètement complexes, très sophistiqués, qu'il y a qu'elles qui comprennent. Or, les banquiers centraux se sont aperçus qu'en utilisant ces modèles, les banques avaient tendance à diminuer le montant de capital qu'elles voulaient mettre de côté. Et donc, là, les Américains ne sont pas d'accord. Et ils ont dit, mais mettons un plancher, quel que soit le modèle que vous utilisez, vous ne pourrez pas descendre en dessous d'un plancher. Là, les Européens n'en veulent pas.
François Morin, alors je voudrais qu'on poursuive. Je dois vous dire que là, c'est intéressant parce qu'il y a des idées reçues qui sont en train de sauter. On pense que l'Europe est plutôt plus dans la régulation financière que les États-Unis. Et en réalité, ce que vous êtes en train de nous dire, Christian Chavagneux, c'est que ce n'est pas du tout le cas et peut-être qu'ils sont moins exigeants en termes de régulation financière. Et alors, pour aller dans votre sens, justement, on parlait tout à l'heure de cette fameuse disposition, ce fameux Glass-Steagall Act, donc séparation des activités des banques. Ça fait longtemps que nous, en Europe, on envisage ça. Regardez, en 2014, François Morin, Michel Barnier, à l'époque commissaire chargé de ces sujets, avait proposé de séparer les activités spéculatives des activités traditionnelles. Et cette mesure, aujourd'hui, force est de constater qu'en Europe, elle est toujours au point mort. Pour quelle raison? Et plus généralement, pourquoi l'Europe qui, croyait-on, s'était montrée plus active sur la question de la régulation financière, semble être très au ralenti, pour ne pas dire carrément en recul par rapport aux États-Unis, si on entend Christian Chavagneux, François Morin?
Écoutez, c'est assez simple. Je crois que la France a joué un rôle assez négatif, même si Michel Barnier était à la manœuvre, dans la mesure où, en France, nous avons, comme vous le savez, des quatre grandes banques systémiques qui sont en même temps des banques universelles. Et donc, l'idée de séparer les activités de détail avec les activités financières toucherait directement le cœur des activités de ces grandes banques françaises. Et donc, le gouvernement français, le Trésor, ont toujours été opposés, finalement, à cette idée. Je crois que la position également allemande est la même sur le sujet, puisqu'ils n'ont qu'une seule banque, eux, systémique, c'est la Deutsche Bank, qui est également une banque universelle. Donc, vous voyez bien qu'il y avait un axe franco-allemand qui, sur ce sujet, était assez clair pour refuser toute idée de séparation des activités bancaires et financières. Voilà.
François Morin, essayons de nous projeter un petit peu et essayons d'imaginer le pire. Est-ce que vous diriez qu'aujourd'hui, il existe un risque imminent de crise financière majeure? Et est-ce que vous diriez que les mécanismes de régulation qui ont été mis en place permettraient d'en limiter la portée, François Morin?
Alors, je crois que les conditions sont réunies pour une nouvelle crise financière majeure. Et je voudrais revenir un instant en arrière sur la question des dettes publiques. Parce que l'évolution des dettes publiques a connu quand même un choc véritablement lourd, important, à partir de 2007-2008, à cause de la crise financière, si vous voulez. On avait effectivement une augmentation des dettes publiques un peu partout dans le monde, mais qui était, je dirais, relativement cantonnée. Et du reste, Christian Chavagneux rappelle bien que le fait qu'on ait un endettement important n'est pas en soi forcément quelque chose de gravissime. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à partir de 2007-2008, à cause de la crise financière, il y a eu une cassure, il y a eu une envolée des dettes publiques tout à fait considérable, ce qui fait que la plupart, enfin même pratiquement tous les pays développés, sont en situation de surendettement aujourd'hui. D'où la contrainte qui pèse sur les finances publiques et sur les politiques économiques, budgétaires notamment. On nous fait de la rigueur, essentiellement depuis cette crise. Avant, on ne parlait pas de politique de rigueur. Et donc, il y a une croyance qui consiste à dire, il faut, en réduisant nos déficits publics, on va résoudre le problème de l'endettement public. Or, sur le fond, je ne crois pas du tout. Il faut revenir aux causes de la crise financière de 2007-2008 pour tenter peut-être de résoudre sur le fond les problèmes qui se posent à nos pays développés.
Et précisément, François Morin, parce que vous expliquez dans votre livre que l'hypothèse des autorités de régulation, c'est de dire que les mesures qui ont été prises doivent permettre d'éviter le fameux effet domino qui avait suivi la faillite de Lehman Brothers. Et ce que vous dites, vous, c'est que cette hypothèse, elle est, je vous cite, « contradictoire avec la nature même des banques systémiques dont il est question ».
Oui, absolument, parce que d'abord, ces banques sont très intriquées les unes dans les autres à travers leurs actifs et leurs passifs financiers, qu'on ne peut pas simplement réguler banque par banque, en quelque sorte, leur activité. Il y a donc, si vous voulez, des possibilités de domino à cause de ces interrelations financières. Alors, pour terminer quand même sur la perspective générale et la question que vous me posez, c'est que l'endettement public qui a été créé au lendemain de la crise financière a été créé précisément à cause de la crise financière et de l'action des banques systémiques. Donc, c'est en cassant précisément cet oligopole qu'on pourra peut-être, sur le fond, résoudre les éléments qui ont été à l'origine de ce surendettement public. Aujourd'hui, nous avons une bulle des dettes publiques qui est proprement considérable et qui menace à tout moment d'exploser, par exemple, soit sous l'effet d'une remontée un peu brutale des taux d'intérêt, et aux États-Unis, on sait très bien que les taux d'intérêt sont en train de remonter doucement, mais ils remontent. Mais si cette remontée devait être brutale, à ce moment-là, les actifs des grandes banques vont s'effondrer, vont perdre leur valeur, et on entrerait donc dans une crise systémique par défaut d'une grande banque ou par défaut d'un pays, simplement.
J'entends votre pessimisme sur cette question. Oui. Vous nous annoncez finalement qu'à terme, nous aurons cette crise.
Les
conditions sont réunies. Mais je voudrais avoir...
Actuellement.
Oui, absolument, parce que la crise, c'est sûr, elle aura lieu. Je peux même vous l'annoncer. Je suis pas économiste, je suis pas un spécialiste de politique monétaire, mais en mathématicien que je suis, je sais que la crise aura lieu. Je ne sais pas quand, mais je sais qu'elle aura lieu. Christian Chavagneux, vous n'avez pas l'air aussi pessimiste. Pour vous, les conditions ne sont pas aussi réunies que ça, hein, Christian Chavagneux.
François Morin le sait, c'est un point de désaccord entre nous. Je ne crois pas du tout à l'explosion imminente d'une crise de la dette publique. Là où il a raison, c'est que, prenez la dette publique française, elle était autour de 65-66% du PIB, l'équivalent juste avant la crise de 2007-2008. Aujourd'hui, on est à 96-97%. Donc oui, c'est la crise qui nous a fait monter notre dette publique. Est-ce que, en même temps, les intérêts qu'on payait sur cette dette, ça représentait 2,5%, l'équivalent de 2,5% de notre richesse nationale, 2,5% du PIB avant la crise. Aujourd'hui, c'est 1,5%. Les taux d'intérêt se sont effondrés. Alors, bien sûr, avec des si, on pourrait provoquer beaucoup de crises s'il y a une remontée brutale des taux d'intérêt. Mais pourquoi y aurait-il une remontée brutale des taux d'intérêt? Les banques centrales s'attellent, la Banque Centrale Européenne s'attellent à maîtriser l'évolution des taux. Si demain devait y avoir quelques tensions, la BCE agirait.
Je voudrais évoquer un dernier élément, s'il vous plaît, Christian Chavagneux, je vais rester avec vous, parce que ça, c'est vrai que c'est des questions extrêmement techniques. Je pense qu'on a compris votre divergence sur ce point-là. Avant d'évoquer dans un instant la question des procédures d'arbitrage avec un nouvel invité, Thomas Kleck, qu'on va retrouver par téléphone, il y a un dernier point que je voulais évoquer avec vous, Christian Chavagneux, parce que ce qu'on constate, c'est que globalement, les banques ne prêtent pas au niveau des besoins. C'est en tout cas l'argument qui est avancé, notamment par Donald Trump, mais qui en réalité semble assez partagé. En tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est qu'on a vu apparaître sur le marché de nouveaux acteurs, des circuits alternatifs. Je pense à KissKissBankBank, je pense qui est le leader européen, je pense à Lending Club aux États-Unis. Quel regard vous portez sur ces nouveaux acteurs du prêt qui ne sont pas des banques au sens historique et traditionnel du terme, et comment les situer en réalité entre menaces et opportunités ici?
D'abord, rappeler qu'il n'y a pas, il n'y a pas du tout de restriction du crédit. Le crédit en France.
Alors, comment expliquer que ces acteurs émergent? Christian Chavagneux?
Le crédit.
Ils sont bien là parce que l'espace est vide.
Aux entreprises et aux ménages progresse d'un peu plus de 5% en France, d'un peu plus de 7% aux États-Unis.
Pourquoi sont-ils là, Christian Chavagneux?
Parce qu'on a des nouvelles technologies qui permettent à des acteurs qui ne sont pas des acteurs traditionnels, qui doivent se constituer pendant des années et des années un réseau de déposants pour pouvoir reprêter, jouer ce rôle de transformation que jouent les banques. J'ai allé chercher des gens qui ont de l'épargne pour le prêter à des gens.
Donc les banques ont raté le train de la technologie, des nouvelles technologies.
Ça c'est très clair. Les banques en général, les banques françaises en particulier, ont raté le train technologique et ces acteurs technologiques essayent d'aller piquer la valeur ajoutée des banques.
Ça pourrait leur coûter cher ?
Ça leur coûte déjà cher.
L'exercice du pouvoir, multinationale, banque, État, qui tient les rênes de l'économie mondiale ? C'est la question qu'on se pose ce matin avec Christian Chavagneux, mais aussi François Morin.
France Culture, Culture Monde, Florian Delorme.
On va parler à présent des tribunaux d'arbitrage qui sont très souvent montrés du doigt. On en a beaucoup parlé ces dernières années parce que les modalités de leur fonctionnement sont beaucoup discutées lors des négociations sur les traités de libre-échange. On en avait parlé, souvenez-vous, au moment du CETA, le traité d'échange commercial entre le Canada et l'Union européenne.
Aujourd'hui, comme je m'y étais engagé, formellement devant vous, je ne donnerai pas les pleins pouvoirs au gouvernement fédéral et la Belgique ne signera pas le CETA le 18 octobre. J'espère que ceci n'est que... Je ne prends pas ceci comme un enterrement, je ne prends pas ceci comme un veto sans condition, je prends ceci comme une demande de réouvrir de négociations pour que de légitimes attentes d'une société civile organisée, transparente, qui ont été exprimées avec force, puissent être entendues par les dirigeants européens et pour que nous puissions ensemble contribuer non seulement à notre prospérité, mais aussi à reconstruire la confiance politique entre les citoyens et leurs élus. Je vous remercie de votre attention.
Et cette voix que vous entendiez, c'était celle de Paul Magnette, ministre-président wallon, qui avait annoncé son refus de valider le CETA. Alors, on va parler du CETA, mais en fait, c'est plutôt les procédures d'arbitrage dont il va être question, les procédures nationales, supranationales. Ces dernières années, le recours à ce type de règlement des litiges s'est considérablement développé, provoquant l'inquiétude de beaucoup, qui considèrent que ce phénomène traduit une forme de privatisation de la justice, le signe que les entreprises sont en train d'emporter la bataille qui les oppose aux États. Mais qu'est-ce qu'il en est réellement? Est-ce que les tribunaux d'arbitrage sont le signe que le privé, finalement, a lancé une grande OPA sur la justice? Bonjour Thomas Clay.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes professeur de droit à l'Université de Versailles, vice-président de l'université et puis titulaire de la chaire de droit de l'arbitrage. Alors, on va parler du CETA et puis plus généralement des procédures d'arbitrage. Récemment, le Parlement européen a ratifié ce fameux CETA. Il a commencé son entrée en vigueur depuis le 1er avril, mais on a les parlements nationaux qui vont devoir s'exprimer pour qu'il entre pleinement et définitivement en vigueur. Exactement ce qui va se passer en réalité si un ou plusieurs d'ailleurs refusent ce texte. Mais expliquez-nous peut-être ce qui est prévu en matière d'arbitrage avec le CETA et au fond, est-ce qu'il s'agit d'une procédure satisfaisante? Je me doute que vous allez la défendre, Thomas Clay, et je vais essayer de l'attaquer.
Thomas Clay. Écoutez, si vous voulez l'attaquer, vous ne me trouverez pas sur votre route parce que je considère que ce qui a été adopté dans le CETA n'a plus rien à voir avec l'arbitrage. Enfin, je considère. Les spécialistes d'arbitrage, les gens qui connaissent l'arbitrage, savent bien que la procédure qui a été instaurée dans le cadre du CETA, dans sa version définitive, c'est-à-dire celle votée par le Parlement européen, est une sorte d'ersatz de ce qu'est l'arbitrage en général. Et ça n'a plus rien à voir puisqu'on a des juges qui vont être nommés par un comité international et qui ne seront donc plus choisis par les parties en litige. Or, la définition de l'arbitrage, qui est une définition historique qui remonte à la nuit des temps, elle est très simple. L'arbitrage, c'est le juge choisi. C'est le juge choisi par les parties en litige. À partir du moment où ces juges ne sont plus choisis, mais qu'ils sont nommés par les États, on ne peut plus parler d'arbitrage. mais d'un système juridictionnel, d'un système spécifique, d'un système, à mon avis, hybride et finalement relativement monstrueux, qui a été instauré dans le CETA à la suite des agitations que l'on a connues l'année dernière au moment de la discussion sur ce sujet.
D'accord, donc quand un certain nombre de responsables politiques dénoncent une atteinte à la souveraineté de l'État, dénoncent le fait que des entreprises vont pouvoir poursuivre l'État français, par exemple, et demander des compensations sur des décisions politiques publiques, on va prendre un exemple, des investisseurs pourront attaquer la France sur l'interdiction des OGM, par exemple, et s'ils gagnent, la contraindre à verser des millions d'euros probablement à titre de compensation, au-delà du débat sur les OGM qu'on va évidemment pas ouvrir, mais si le Parlement français vote des lois et qu'elles ont comme effet in fine que l'État français doit payer au titre de cette loi, non, qui serait considérée par le privé comme contraire à ses intérêts, il y a un problème.
Un risque qui n'existe pas et qui n'a pas d'exemple dans l'histoire. C'est-à-dire que pendant des années, on nous a parlé d'une affaire qui était l'affaire Philippe Maurice qui attaquait l'Australie. L'Australie avait décidé, comme d'ailleurs vient de le faire de la France, que les paquets de cigarettes devraient être présentés désormais de manière neutre. Et Philippe Maurice a attaqué. Et donc l'épouvantail qu'on dressait, que vous êtes en train de faire, disait écoutez, donc un État ne peut plus légiférer sur des questions de santé publique. Mais tout le monde a oublié de rappeler comment c'est fini cette affaire. Cette affaire, c'est que Philippe Maurice a été débouté et condamné. Mais je sais que vous le savez, mais je suis pas sûr que tous les auditeurs qui ont été instrumentalisés dans ce fantasme autour de l'arbitrage le savent. Et puis quand vous dites que, si vous voulez, une entreprise étrangère va attaquer la France pour l'empêcher de légiférer, elle peut toujours le tenter, mais il y a très peu de chances qu'elle l'obtienne. Les statistiques de ces arbitrages d'investissement montrent bien que dans la plupart des cas, les États gagnent leurs procédures. C'est 42% des procédures gagnées par l'État, 31% qui sont gagnées par les entreprises, et puis...
Oui, sauf qu'il y a tellement de procédures, que même si proportionnellement, peut-être les États gagnent plus souvent, ça leur coûte quand même extrêmement cher. Vous prenez un exemple, je vais en prendre un autre. Il y a quelques jours, on a appris que l'Espagne avait été condamnée à payer 128 millions d'euros d'indemnité à une entreprise britannique. C'est un litige que posait le gouvernement espagnol à une entreprise dans le domaine de l'énergie. Alors, sur le plan de la justice commerciale, il n'y a peut-être pas d'injustice, si je puis dire, mais sur le plan politique, on peut s'inquiéter de cette situation. Le gouvernement espagnol se retrouve condamné pour avoir voulu favoriser des investissements dans les énergies renouvelables. On peut quand même regretter que Madrid ne puisse pas prendre ce genre de décision politique sans avoir à en répondre auprès des entreprises privées, Thomas Clay.
Écoutez, malheureusement, je ne peux pas vous répondre sur ce cas parce que je suis impliqué dans cette affaire. Donc, je ne pourrai pas vous répondre. Je suis désolé. Mais en revanche, je peux élargir le débat et la question que vous posez, et qui est effectivement une question qui peut poser problème. C'est-à-dire, est-ce qu'un État est souverain dans sa définition des politiques publiques, et notamment en matière de santé ou de l'environnement? Et en l'occurrence, c'était de l'environnement. Et il est important que l'État demeure souverain. Si vous voulez, le problème n'est pas l'arbitrage. Le problème, c'est la norme. Et on a un peu tendance à confondre la norme et le juge. Le choix du juge ne change rien. Que vous alliez devant un juge étatique ou devant un juge ou devant un arbitre ou devant le CETA, le juge qui va être amené à statuer, il va appliquer la norme. Or, ce qui est problématique dans le CETA, c'est la norme. C'est problématique pour ceux qui l'attaquent, en tout cas. C'est cette norme très libéralisée qu'on va demander au juge d'appliquer. Et donc, il ne faut pas confondre la norme et le juge. Et puis, je voudrais quand même vous dire quelque chose.
Parce que
vous regardez les choses à sens unique. C'est-à-dire, vous êtes toujours du côté de l'État qui serait empêché de légiférer en fonction des entreprises. Mais prenez le cas de l'entreprise française. L'entreprise française qui fait un investissement, par exemple, aux États-Unis. Puisque vous savez que le CETA est le petit frère du TAFTA. Le TAFTA, qui est le traité Europe-États-Unis, lui, pour l'instant, n'entre pas en vigueur. Le CETA, d'ailleurs, probablement n'entrera jamais en vigueur non plus, mais peu importe. L'entreprise française, elle a besoin d'être sécurisée dans ses investissements. Elle n'a pas envie de se retrouver devant la cour du second circuit de l'Arkansas, par exemple, parce que la législation locale a changé. Donc, il faut aussi prendre le point de vue de l'investisseur, et l'investisseur français, et de l'entreprise française. Et elle a besoin, cette entreprise française, de pouvoir choisir le juge qui va statuer, de pouvoir s'exprimer en français avec des avocats français, et non pas d'être, basculé dans un système qui n'est pas le sien du tout. Donc, l'avantage de l'arbitrage, c'est que, au lieu de jouer dans le terrain d'une des deux parties, on va jouer sur terrain neutre. Et c'est la meilleure manière d'obtenir la meilleure justice, c'est la neutralité.
Je vous rassure, Thomas Clay, je ne suis pas du côté des États, ni même du côté du privé, dit l'un ni l'autre, mais j'organise le débat, j'organise l'échange d'idées.
Sûr, non, et donc moi, voilà. Je vous réponds aussi absolument. De manière un peu caricaturale, évidemment.
Absolument, absolument. Thomas Clay, je vais vous poser une question. Est-ce qu'on pourrait pas se passer, alors, j'ai entendu les avantages, les atouts que vous nous présenter de ces procédures d'arbitrage. Mais est-ce qu'on pourrait se passer aujourd'hui des procédures d'arbitrage ou est-ce qu'aujourd'hui, finalement, les échanges commerciaux sont tels qu'on a absolument besoin de ce type de procédure pour régler des litiges parce que tout simplement, la justice des États ne serait plus en capacité, compte tenu des niveaux d'échanges internationaux, ne serait plus en capacité de régler ces litiges?
Vous avez, alors là, franchement, vous posez la bonne question. Permettez-moi de vous le dire, c'est la question que personne ne pose jamais. Bravo, bravo à vous et bravo à France Culture. Effectivement, est-ce qu'on peut se passer de l'arbitrage? Il y a ce que vous dites, c'est-à-dire, est-ce que la justice a les moyens de traiter ce genre de dossier? La réponse est évidemment négative, c'est des dossiers extraordinairement sophistiqués qui prennent, auxquels il faut consacrer un temps, une expertise colossale. Mais au-delà de ça, et avant cela, en amont, ce qu'il faut comprendre, c'est que s'il n'y a pas d'arbitrage, il n'y a pas d'investissement. Voilà, l'arbitrage, c'est la condition de l'investissement. Ça vaut lorsque l'entreprise Disney vient s'implanter en Europe et choisit la France, et quand on lui dit, en cas de litige, vous vous retrouverez devant le Conseil d'État, elle part en courant. Elle ne veut pas se retrouver devant le Conseil d'État. Donc, à ce moment-là, qu'est-ce qu'elle dit? On est en 1986. Elle dit, moi, très bien, je vais en Catalogne espagnole. Je ne veux pas me retrouver devant le Conseil d'État. Et donc, on fait une loi spéciale pour que Disney puisse implanter. Alors après, je ne me prononce pas sur l'opportunité de l'implantation d'Euro Disney. Mais peu importe. On fait une loi spéciale pour que Disney puisse s'implanter en France. Voilà. Et je prends un autre exemple en sens inverse. Lorsque le musée du Louvre, décide de s'implanter à Abu Dhabi, il ne le fait qu'à la condition qu'en cas de litige, il ne se retrouve pas devant la justice d'Abu Dhabi. Sinon, il n'y va pas. C'est ça qu'il faut comprendre. Il n'y va pas parce que dans ce type de grand contrat d'infrastructure, il y a toujours des litiges et il ne veut pas avoir à être traité par la justice d'Abu Dhabi. Non pas qu'il craint son impartialité, mais parce qu'il veut être sur un terrain neutre. Voilà, il veut avoir ses avocats qui s'expriment en français, dans le droit éventuellement français qu'on va choisir, ou dans les traités bilatéraux d'investissement, et puis avec si vous voyez, la maîtrise culturelle et juridique du litige. Mmh. Voilà, donc absence d'arbitrage égale absence d'investissement.
Merci beaucoup, Thomas Clay, de nous avoir éclairé sur ces procédures d'arbitrage. Je rappelle que vous êtes professeur de droit à l'Université de Versailles, vice-président de l'université et titulaire de la chaire de droit de l'arbitrage. Merci à vous.
Merci, au revoir.
Et merci beaucoup à vous, Christian Chavagneux, de nous avoir accompagnés, éclairés, d'avoir débattu autour de ces questions. Je rappellerai les paradis fiscaux, 4e édition à la découverte en janvier dernier. C'est Brice Couturier qui fait tomber la pendule, tout va bien. Une brève histoire des crises financières également, c'était toujours à la découverte en 2013. Un grand merci également à François Morin qui était avec nous en duplex depuis Toulouse. Je remercie d'ailleurs les techniciens qui ont assuré ce duplex. Je rappellerai deux de vos ouvrages, François Morin, l'économie politique du 21e siècle, un peu ardu, disons-le quand même, c'était chez Lux, et peut-être plus facile, l'hydre mondiale, l'oligopole bancaire, toujours chez Lux. Merci infiniment à vous. Il est 11h presque 53 minutes, l'heure où tout s'écroule dans le studio parce que c'est l'arrivée de Brice Couturier et du Monde des Idées.
Le tour du Monde des Idées, Brice Couturier.
Bonjour Brice.
Bonjour Florian.
Alors, vous nous présentez la suite des réactions enregistrées dans diverses capitales à nos élections présidentielles. Comment est commentée la victoire d'Emmanuel Macron?
L'élection d'un inconnu de 39 ans à la tête de la République française frappe de stupeur la planète Internet. On semble découvrir que la France n'est pas seulement le pays des 1200 fromages et des grands vins, mais aussi une start-up nation. Notre pays, que tous les French bashers décrivaient encore hier comme irrémédiablement bloqué, incapable de retrouver une place dans un 21e siècle auquel il n'aurait rien compris, redevient soudain à la mode. Après la cool Britannia de l'époque Blair, est-ce au tour de la France de devenir cool à son tour? Pour tenter de trier parmi ces réactions, je vais me limiter ce matin au site Project Syndicate auquel collaborent des leaders d'opinion du monde entier. Le plus fameux des intellectuels publics néerlandais, Ian Buruma, se demande si nous assistons à la fin du clivage structurant gauche-droite. Après tout, souligne-t-il, ce sont justement les Français qui ont inventé, au début de leur fameuse révolution, cette manière de se compter entre partisans et adversaires du veto royal. Or, les deux finalistes de l'élection présidentielle française prétendent, l'un et l'autre, renvoyer le vieux clivage aux poubelles de l'histoire. Emmanuel Macron entend rassembler les progressistes, les partisans de la réforme, de droite et de gauche. Marine Le Pen prétend parler au nom du peuple, des petites gens de France, et son programme emprunte nombre d'éléments à la gauche radicale. Est-ce à dire qu'il faut abandonner le critère de différenciation droite-gauche ? Ce serait oublier, estime Bourouma, qu'il a été solidifié en France par l'affaire Dreyfus. Deux conceptions à cette époque se sont opposées sur ce qui était décisif, la définition même de la nationalité. D'un côté, le sol et le sang, de l'autre, la citoyenneté politique. Or, le nouveau populisme identitaire, celui des Le Pen comme celui de Trump, recycle à sa manière le fond de l'idéologie anti-Dreyfusard. En se réclamant du vrai peuple contre les élites mondialisées, il renoue avec les thèmes de la patrie trahie par les cosmopolites et livrée aux métèques. Cela pose à la gauche social-démocrate un problème de survie, estime Bourouma, car les plus défavorisés se tournent dorénavant vers cette nouvelle droite. Si la gauche, dans toutes les grandes démocraties, a perdu progressivement les classes populaires, c'est qu'elle est devenue le parti des diplômés du supérieur. Elle a favorisé les grandes entreprises et le multiculturalisme. Il ne faut pas enterrer trop vite le clivage droite-gauche, conclut Bourouma, et d'avertir. Macron est plein de bonnes intentions, mais si sa politique échoue, les nouveaux anti-Dreyfusards viendront prendre leur revanche.
La victoire d'Emmanuel Macron, Brice Couturier, est celle d'un euro-enthousiaste. Ça aussi, ça a dû étonner.
En effet, et la plupart des autres réactions postées sur toujours Project Syndicate tournent autour de la relance de l'Union européenne où Macron est attendu. Ainsi, Harold James, professeur d'histoire des relations internationales à Princeton, se réjouit que le vainqueur de la présidentielle ait été le candidat le plus favorable à l'idéal européen. Mais c'est pour ajouter aussitôt que cet idéal, la majorité des électeurs français ne le partagent plus. L'euroscepticisme, voire l'europhobie, ont alimenté le vote populiste. Tant Marine Le Pen que Jean-Luc Mélenchon ont développé des thématiques anti-allemandes dont les fondateurs du projet européen se seraient bien gardés, alors que la France sortait à l'époque d'une guerre avec l'Allemagne. Plus grave encore, une partie des peuples a le sentiment que les élites nationales sont manipulées par Bruxelles. Les pays du sud de l'Europe, auxquels la France ressemble de plus en plus, considèrent souvent la monnaie unique comme une camisole de force et ils imaginent que l'abandonner leur rendrait des marges de manœuvre. Mais le paradoxe de la situation, c'est que les Allemands et les pays du Nord se sentent eux-mêmes piégés. Et Harold James, toujours lui, d'invoquer alors la théorie du maître et de l'esclave de Hegel et d'attribuer à notre jeune et nouveau président la tâche du saut dialectique, Aufhebung, qui permettrait de sortir de cette fâcheuse situation. En termes moins philosophiques, ça consisterait tout simplement pour la France à s'inspirer enfin du modèle allemand, l'économie sociale de marché, afin de créer enfin des emplois marchands. Pour l'Allemagne, à assumer enfin ses responsabilités en matière de défense en se mettant enfin à l'unisson de l'effort français en ce domaine. Notez que si certains prônent encore et toujours le modèle allemand, on vient de le voir sur le même site, Philippe Aguillon, professeur au Collège de France et l'un de ces économistes qui, dit-on, chuchote aux oreilles d'Emmanuel Macron, vante lui le modèle scandinave. Il combinerait à ses yeux deux idéaux, celui d'une très grande flexibilité du travail et d'un encouragement à l'innovation, tous deux propices à la croissance, puis plus un système de protection sociale universelle qui suit l'individu tout au long de sa trajectoire de vie et lui permet ainsi de multiplier les essais personnels en se sentant protégé par un filet de sécurité solide. La Suède a plus de 4% de taux de croissance, un taux de chômage de 6%. La France, on le sait, une croissance inférieure à 2%, un chômage égal à plus de 10%. Emmanuel Macron ne serait pas un intégriste du marché, rassure Aguillon, mais un adepte de la Scandi-solution.
Merci beaucoup Brice Couturier pour cette chronique qu'on peut retrouver sur le site internet de France Culture, www.franceculture.fr, sur lequel on peut écouter, réécouter, télécharger. Je le dis souvent, mais c'est important.
Merci.
C'est très utile pour les auditeurs. On vous retrouve bien sûr demain.